Sommes heureux d'être ensemble encore ce matin pour partager le bon message de l'Évangile ensemble. Voilà, je voulais continuer sur la lignée que nous avons travaillée cette semaine sur l'Église de Christ, l'Église qui avance, l'Église du réveil. Et on va commencer en ouvrant la parole de Dieu, vous voulez bien? Ouais. Alors on ouvre la parole de Dieu dans les psaumes. Nous avons été heureux que le Seigneur a parlé encore ce matin. Nous sommes réjouis dans la présence de Dieu, mais il a parlé déjà à nos cœurs. Le psaume 11. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Voilà, hier on était sur le marché, voilà, avec Henri. Et vous savez, le marché, c'est un peu la température du monde. Température du monde. Vous trouvez un peu de tout au marché, et toutes sortes de croyances, toutes sortes de choses, mais aussi toutes sortes de remarques. Et il y a quelque chose qui m'a marqué hier, c'est qu'on était sur ce marché et on était content de proclamer la parole de Dieu sur ce marché. Je vous invite à venir, mais je crois qu'à force des exemples que je vous donne, vous allez de moins en moins avoir envie de venir, mais je vous invite à venir vraiment sur le marché, c'est des moments bénis. Et il y a un homme qui arrive et qui dit « Est-ce que c'est la fin du monde ?» Est-ce que c'est la fin du monde? Et notre frère, qui a beaucoup de répondants, il dit, mais qu'est-ce que vous pensez, vous? Est-ce que c'est la fin du monde? Et cet homme dit, mais oui, oui, c'est la fin du monde. Oui, quand on regarde autour de nous, quand on regarde ce qui se passe, forcément, on voit que les choses sont en train de dégringoler, que les choses sont en train de se détruire. On voit que c'est la fin du monde. Bon, après, il lui a posé une question, il lui a dit, qu'est-ce que vous faites face à cela? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous en pensez? Votre âme, où elle va? Et là, par contre, c'est différent. Hein. Quand on commence à parler comme ça, là, de suite, c'est oui, non, mais vous comprenez, le Seigneur, voilà, c'est bien, mais ce n'est pas pour moi, tout ça. Et on voit que cet homme réalisait qu'on est dans des temps difficiles. Peu de temps après, un autre homme passe et il dit, Jésus revient. Amen, parole de Dieu, hein. Parole de Dieu, hein. De la bouche de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il s'est dit, waouh, merci Seigneur. Et bien sûr, il dit ça en rigolant. Mais je pense sincèrement que le monde et que ceux qui nous entourent savent les temps que nous vivons. Ils savent que nous sommes dans des temps difficiles. Et quand on regarde autour de nous, quand on regarde le thermomètre du monde qui nous entoure, on voit que ça chauffe. Il y a des tremblements de terre, des guerres qui se multiplient. La violence vient jusqu'à nos portes. On voit des catastrophes naturelles. Le diable se déchaîne. Il y a de l'immoralité. Mais peut-être ce qui est le plus inquiétant, peut-être ce qui nous choque le plus et qui devrait le plus nous choquer, c'est qu'autour de nous, la parole est détournée. C'est qu'autour de nous, la parole est renversée. Et on vient de lire, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il ? Je pense que ce verset, David, en écrivant cela, a bien sûr pensé à sa vie, ce qu'il était en train de vivre, et il vivait dans un monde difficile aussi, mais je pense que c'est une parole prophétique aussi pour nous, encore aujourd'hui. Quand les fondements sont renversés, que fera l'Église? Qu'est-ce que je ferai, moi qui connais Jésus? Le monde a soif de paroles qui leur sont agréables. Il nous est dit dans 2 Timothée, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Si ça, ce n'est pas l'actualité, j'étais en train de lire ce verset et je me disais, c'est mieux que DC ou BFM TV, là. Hein. C'est vraiment d'actualité. Hein. C'est ce que nous vivons en ce moment. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes se détournent de la voie droite et commencent à rentrer dans toutes sortes de croyances, toutes sortes de choses qui leur sont agréables. Allez dans la rue et dites-leur, oui, on a de l'argent à vous donner. On vient souvent avec des billets de 50 euros, mais pas des vrais, hein, mais des billets de 50 euros où il y a marqué Jésus, la seule valeur. Et on a fait une expérience, on a mis ces billets au milieu de la rue et on s'est mis à l'écart et on regardait ce qui se passait. Et tous les gens passaient et comme par hasard, leurs yeux étaient attirés vers ce billet de 50 euros, attirés vers cet argent et comme si personne ne les voyait, ils mettaient le pied dessus et puis ils le prenaient et ils partaient vite. Après, bon, quand ils l'ont ouvert, c'était moins content. La seule valeur, c'est Jésus. Mais on voit que les fondements sont renversés. On voit qu'on aime les choses agréables. Mais où est la parole de Dieu? Où est l'Église dans tout ça? Où est le fondement de la parole de Dieu dans nos vies, dans notre ville? On a besoin d'être ces lumières. Est-ce que tu peux mettre l'image, s'il te plaît? Ouais, je fais honneur à mes origines ce matin. Origine vaudoise. Et cette image m'a toujours marqué. Lux lucet in tenebris. La lumière, lui, dans les ténèbres. On voit cette lumière entourée de sept étoiles. Et ces sept étoiles sont les sept églises de l'Apocalypse. Les sept églises de la fin des temps. Et cette lumière, ça représente nous, ça représente notre église. Notre église établie sur la parole. Établi sur ce livre divin pour nos vies. Combien j'aimerais ce matin, peut-être raviver à nos cœurs l'envie, le feu de l'Église primitive, le feu de l'Église qui est appuyée sur la parole de Dieu, le feu de la vérité pour nos vies. La première chose qu'on voit dans ce verset, et c'est que beaucoup de personnes vont dire à David de fuir. Ils vont dire de fuir. Quand les fondements sont renversés, quand tout se détruit autour de nous, peut-être notre premier réflexe, c'est fuir. Ça peut être notre premier réflexe. Quand on voit que ça ne va pas aller, quand on voit qu'on ne peut plus rien, on fuit. Et j'aime bien la réponse de David, on va la lire ensemble, on va relire ce verset encore ensemble. Psaume 11, verset 1er. La réponse de David. « C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau ? C'est en l'Éternel que je trouve un refuge. » Et verset 4, « L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste et il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. » On voit que David est là et il est tout environné de ces fondements qui sont renversés, tout environné de ce péché qui est là et des gens en veulent à sa vie. Des gens en veulent à sa vie et quand on proclame la vérité, vous savez, des gens peuvent en vouloir à nos vies, veulent en vouloir à notre doctrine, veulent en vouloir à notre parole parce que nous avons la parole de la vérité, c'est la Bible qui nous le dit. Nous avons la parole, la vraie. Il y en a une seule, il n'y a pas plusieurs Bibles, il y en a une seule. La parole de Dieu est vraie et amen, maintenant et à jamais. Et David est là et il est entouré et les gens disent mais fuis. Fuis, ne reste pas là, c'est ta vie, c'est ton corps qui va être meurtri si tu fuis pas. Et David dit non, je ne fuirai pas, je ne fuirai pas. Pourquoi David ne fuit pas? David ne fuit pas parce qu'il sait qui est l'Éternel. Il sait qui est l'Éternel. Amen. Combien ont rencontré Jésus ce matin? Amen. Combien peuvent dire « Je crois en Dieu et j'ai compris ce chant majesté ?» Majesté. Merci. Ce matin, nous avons chanté « Majesté, majesté. » Ce n'est pas un petit Dieu que nous avons. Hein. Ce n'est pas un Dieu de bois, de fer, de terre. C'est majesté, le roi des rois. Et David le savait bien. David était un homme selon le cœur de Dieu et il savait que Dieu était là, qu'il était au-dessus de tout et il dit son trône, il est sur son trône et Dieu est sur son trône et qui y a à côté de lui? Jésus. Jésus, celui qui change les vies, celui qui transforme et toute autorité lui a été donnée. Voilà une parole pour notre vie. Quand les fondements sont renversés, Que fera l'Église? Est-ce qu'elle fuit? Est-ce qu'elle fuira devant l'ennemi? Je crois que nous sommes l'Église de Dieu. Et je crois que nous ne fuirons pas. Parce que nous avons connu qui est le Christ. Celui qui est au-dessus de tout. Celui qui peut tout. Celui qui transforme nos vies. On peut dire amen à ça? Amen. Celui qui transforme nos vies. Merci Seigneur. Parce que je décide aujourd'hui de ne pas fuir devant l'ennemi. Et j'aimerais peut-être parler à une personne ou peut-être deux ce matin. Vraiment, j'ai une pensée sur le cœur. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui t'ont environné. Beaucoup de choses qui ont assailli ta vie. Et tu étais comme retourné, tu étais comme envahi par toute chose, toute chose qui venait te détruire. Et tu t'es dit, mais je fuis pour ma vie. Je fuis parce que je n'y arriverai pas. L'Éternel t'appelle, Jésus t'appelle encore ce matin à revenir dans ses voies. Il t'appelle à revenir à sa parole. Il t'appelle à revenir sous son refuge. Sous son refuge. Il veut t'accueillir sous ses ailes, te dire qu'il t'aime. Il t'aime, il prendra soin de toi. Même si la tempête fait rage, même s'il y a toutes choses qui te font peur autour de toi, même si tu es incertain, tu ne sais pas où tu vas, tu te dis, mais je m'engage, mais c'est dans l'inconnu, je ne connais pas. Jésus est là. Il te prend par la main. Il te dit, viens, je te protégerai, je te garderai. Jésus t'aime. La deuxième chose, quand les fondements sont renversés, c'est est-ce que je vais me taire? Est-ce que je vais me taire? On va lire un autre texte. Dans Actes 14. Acte 14, verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds !» Il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et il dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelèrent Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel la pluie et les saisons fertiles, et vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. » À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. On voit ces deux hommes, serviteurs de Dieu, qui sont là et qui sont en mission. Ils vont par de tout le monde proclamer la bonne nouvelle et ils arrivent dans cette ville qui s'appelle Lystre. Ils vont proclamer la parole. Ils vont prier pour les malades. Un malade va être guéri. Et ces gens de liste avaient des croyances particulières. Ils adoraient les astres, ils adoraient Jupiter. Et quand ils vont voir ce malade guéri, ils vont dire « Les dieux sont venus vers nous ». Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre ces animaux, vouloir les sacrifier, et sacrifier au nom de Jupiter et de Mercure, qui est Paul et Barnabas. Ils arrivent dans un monde où l'idolâtrie règne. Ils arrivent dans un endroit où leur message n'est pas perçu comme ils le pensaient. Ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que ces hommes, ces femmes vont dire « c'est des dieux, c'est des dieux ». Des fois, on aimerait qu'on dise ça de nous, non? On n'espère pas, non, pardonne, amen. On aimerait que les gens disent « waouh, l'église elle est belle, l'église elle est… » Et ils vont coller la doctrine chrétienne avec leur doctrine, avec ce qu'ils pensent eux, ce qu'ils croient eux. Et ils vont faire un mélange. Et ils vont élever ces hommes qui ne sont que des hommes. Peu de temps après, on voit que Paul va les reprendre. On n'aime pas être repris. Paul va les reprendre. Et là, des juifs vont venir et détourner la foule. Ce qui m'étonne dans ce texte, c'est la rapidité entre le moment où ils élèvent ces hommes comme des dieux et le moment où ils vont lapider. Où ils vont lapider. Je dis, mais c'est quand même hallucinant. Ils sont là, ils ont vu des miracles, ils ont vu des choses extraordinaires. Et ils vont lapider ces hommes, se laisser détourner par toutes sortes de doctrines, par des paroles d'hommes qui vont les détourner de la voie de Dieu. Et Paul va être miraculeusement relevé. Mais je voulais appuyer sur un point. On voit au verset 21, « Quand ils eurent évangélisé cette ville, donc Derbe, et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. » Je ne sais pas, moi je me mets à la place de Paul et Barnabas. Je suis allé dans un endroit, j'ai fait la voix de Dieu, j'ai fait ce que Dieu voulait, et je me suis fait lapider. Je suis allé, je me suis fait insulter, on m'a laissé comme mort. Dieu m'a fait grâce. La première chose que je vais faire, ce n'est pas retourner dans cet endroit. C'est pas pour vous, mais une personne sensée dirait, mais je ne retourne pas là-bas. Je ne retourne pas là-bas. Moi, je n'y serais pas retourné en tout cas. Seigneur, renouvelle notre foi. Amen. Et ces hommes vont y retourner pour encourager les frères. L'ennemi a voulu les faire taire. L'ennemi a voulu qu'ils s'arrêtent sur le chemin. Ils avaient une mission de Dieu, évangéliser le monde, toucher le monde, à proclamer la bonne nouvelle pour que beaucoup rencontrent ce salut, beaucoup rencontrent cet amour. L'ennemi va vouloir les arrêter. Et vous savez que l'ennemi va vouloir toujours nous arrêter. Toujours. Mais l'Église ne s'arrête pas. L'Église de Christ continue. L'Église de Christ ne s'arrête pas sur le chemin. Elle proclame la bonne nouvelle. On vient de le chanter. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Nous sommes sur les montagnes. Nous voulons proclamer. Proclamer le nom de Jésus, proclamer qu'il est bon aux nations. Et parfois, quand on proclame, ce n'est pas perçu comme on pensait. Parfois, quand on proclame, on voit que l'ennemi va vouloir tout faire pour nous faire taire. Faire taire l'Église. Peut-être l'outil le plus courant chez l'ennemi pour nous faire taire, pour nous arrêter sur le chemin, c'est l'outil de l'incrédulité. L'outil de l'incrédulité. Vous savez que l'incrédulité, c'est mortel pour nos vies, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui ayons la foi. Un jour, il y avait un homme, un pasteur, qui est encore vivant, et il témoigne de cela. Et il dit, j'ai été appelé en mission pendant une semaine en Afrique. Donc il était content, il est parti en Afrique, et cet homme se réjouissait, il s'est dit, je vais pouvoir proclamer la parole, je vais pouvoir faire voir tous ces peuples. Et il arrive là-bas, et la mission commence, et il proclame la parole, voilà, dans le lieu de culte. Et à un moment, il marche avec le pasteur, et il visite, avec le pasteur du coin, et il visite ce lieu. Et là, deux hommes viennent les voir et ils disent, il faut que vous veniez prier pour notre ami. Cet ami, il est malade. Il faut que vous priez, il faut que vous puissiez venir lui imposer les mains, il sera guéri. Alors cet homme, un peu entre deux, dit, d'accord, je vous suis. Et il arrive et il marche avec eux. Et arrivé devant cet homme, il dit, attendez, il y a dû avoir une incompréhension là. Cet homme est mort. Cet homme n'est pas malade. Et ces hommes de lui dire, mais oui, il est mort, mais si tu pries pour lui, si tu lui imposes les mains, il ressuscitera, il sera guéri. Et cet homme dit, mais non. Et il pensait dans son cœur, et il le dit comme ça, il pensait dans son cœur, il disait, mais en France, ça m'arrive régulièrement d'imposer les mains, et je ne vois pas des choses comme ça. C'est, je veux dire, je peux rien pour cet homme, je peux rien. Et il lui dit, non, je peux pas prier pour lui. Il est mort, quoi, je peux rien faire. Et ces hommes vont insister, insister, insister. Et au bout d'un moment, il va dire, d'accord, comme vous voulez. Et il lui impose les mains. Il prie au nom de Jésus. Et vous savez ce qui se passe ? Rien. Rien du tout. Il ne se passe rien du tout. Et cet homme, dans son cœur, de dire, ben, j'avais raison. Je savais qu'il n'allait rien se passer dans tous les cas. Et les frères le remercient et il part. Quelques jours après, il était là en train de proclamer la parole dans un lieu de culte. Et il va voir un homme arrivé en sautant. Il voit cet homme arriver en sautant devant et il va le reconnaître. Cet homme, c'était le mort. C'était celui qui était mort. Dieu l'a ressuscité. C'est aujourd'hui, c'est pas d'il y a 50 ans ou 60 ans, non. C'est d'aujourd'hui. Cet homme s'est relevé. Et ses frères de raconter, de dire, mais vous avez prié pour lui, c'est rien passé, et vous êtes parti avec ce pasteur, et quand vous avez pris l'angle de la rue, il a ouvert les yeux. Alors on s'est dit, merci Seigneur. Alors ils ont continué à prier, et il s'est levé, et finalement il a parlé, et il était ressuscité. C'est encore possible aujourd'hui. C'est encore possible. Parfois l'incrédulité. Et peut-être dans notre pays de France, malheureusement. On est tellement attaché à toutes sortes de remèdes, toutes sortes de confort. Et c'est bien, merci Seigneur, qu'il ait mis des personnes qui soient assez intelligentes pour nous trouver des remèdes, toutes sortes de choses. Mais mettons quand même la priorité sur Jésus. Mettons la priorité sur la puissance de Dieu. Une fois, je marchais dans la rue. Et Seigneur interpelle mon cœur. Je vous ouvre mon cœur ce matin. Il interpelle mon cœur. Et il me dit, regarde la dame qui est là. Regarde la dame qui est là. Alors je la regarde et je constate qu'il lui manquait une jambe. Et le Seigneur me dit, va prier pour elle. Va prier pour elle. Alors dans mon cœur, je dis, Seigneur. Seigneur, on est en France. On est en France quand même. Je vais pas aller prier pour elle. Elle a une jambe. Si je prie pour elle et qu'il ne se passe rien, vous imaginez un peu? Oh la honte. La chouma. La honte sur nos vies. Et le Seigneur me dit, non, va prier pour elle. Va prier pour elle. Et j'étais dans le combat. J'étais vraiment retourné. Et au bout d'un moment, je dis, Seigneur, non, je ne le ferai pas. Non, je ne le ferai pas. Je suis parti. Cette femme, je ne l'ai plus jamais revue. J'ai reprié le Seigneur qui me la remette sur la route. Et je ne l'ai plus jamais revue. Et l'incrédulité avait saisi mon cœur. L'incrédulité avait pris la place principale. Sur notre église, il y a marqué « Église évangélique » et nous sommes une église protestante évangélique de Pentecôte. Amen. Et je suis fier de ça. Je suis fier de qui nous sommes. De ces hommes et ces femmes qui sont morts pour qu'on puisse proclamer la parole, pour qu'on puisse la vivre. Et nous oublions souvent le mot Pentecôte, peut-être. La Pentecôte, c'est pas seulement les dons, c'est pas seulement le Saint-Esprit, mais c'est aussi les miracles, c'est aussi les transformations. Et je crois sincèrement qu'on peut le vivre encore aujourd'hui dans notre région, dans notre ville. Pourquoi il se passerait cela en Afrique? Pourquoi il se passerait cela dans tellement de pays? Et je crois que notre frère va revenir avec des bons témoignages. Qui va revenir et qui va réjouir nos cœurs. Mais si ça réjouit seulement nos cœurs et qu'on ne décide pas de se mettre en marche, de mettre en pratique dans nos vies, à quoi cela sert? Une arme de l'ennemi, l'incrédulité. L'incrédulité. C'est l'incrédulité qui fait que quand on va pour parler de Jésus, on se dit, oui, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Quand on voit quelqu'un malade, de dire, non, je ne vais pas prier pour lui quand même. Je vais prendre le contact petit à petit, même si le Seigneur nous le dit et je l'ai vécu. On a besoin de revenir à nos racines, besoin de revenir aux fondements, que ces fondements ont été renversés par l'incrédulité et voulons revenir à la foi, revenir à la foi, qu'il n'y ait pas seulement écrit sur notre église, église de Pentecôte, mais que les gens le voient dans nos vies chaque jour. Je crois qu'on peut prier pour quelqu'un dans la rue qui soit délivré. Je crois qu'on peut prier pour quelqu'un qui est dans l'hôpital malade et qui soit totalement guéri. Je crois encore aux promesses de Jésus pour nos vies, pour notre Église. Je crois que nous pouvons être cette Église de réveil. L'Église de réveil, on en parle souvent. Qu'est-ce que c'est l'Église de réveil? Une église de réveil, c'est une église qui est humble, qui est amour pour les autres, mais une église qui a la foi. Et nous avons la foi. Alors mettons-la en pratique. La lumière, lui, dans les ténèbres. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et l'ennemi veut nous arrêter, veut nous faire fuir. Il veut nous arrêter sur ce chemin de la foi et il veut nous faire taire. Et faire taire nos vies. Notre rôle principal, c'est quoi? Nous sommes sauvés et qu'a dit Jésus? Aller par toutes les nations, faire des disciples. Aller par toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle, faire des disciples. Voilà ce que l'appel pour nos vies. Voilà la mission pour nos vies. Seigneur, peux mettre des paroles dans nos bouches. Même si parfois on se dit, mais je suis pas assez bon, je suis pas assez bien, j'ai du mal à parler. Quand on pense que Dieu s'est servi de Moïse qui disait, mais j'ai du mal à parler, je bégaye, je peux pas. Et qu'a accompli Moïse? Qu'a accompli Moïse? Paul dira à Timothée, dans 2 Timothée 4, verset 2, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Vers les fables. Combien de fois dans la parole de Dieu, il nous est dit que l'ennemi veut nous faire taire? Le Seigneur veut se servir de nous. Même si nous sommes rien. À un moment, il y a une histoire dans la Bible qui nous dit que les disciples, ont guéri un homme par le nom de Jésus et ils vont être amenés devant un tribunal. Et ce tribunal va les interdire de proclamer la parole. Les interdire. Et vous savez, dans la fin des temps, et la Bible nous le dit que dans la fin des temps, ils nous emmèneront dans les tribunaux. Et on le voit déjà. Ah non, ça c'est pas correct. Ça c'est pas normal de dire ça. De dire la vérité, de dire que non, cette loi elle nous plaît pas. Cette loi n'est pas droite devant Dieu. De faire la différence. Ils nous emmèneront devant les tribunaux. Et on voit que ces hommes vont être fouettés. Et ils vont sortir heureux. Ils vont sortir heureux. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de parler à quelqu'un et de me faire insulter. De parler de Jésus et de me faire insulter. Ça vous est déjà arrivé? Ouais. Ouais, plusieurs. Je vois qu'il y en a plusieurs qui vont en oui. Des fois, on parle de Jésus et on se fait insulter. Et on se dit, ah purée, c'est pas possible. On a envie de s'énerver. Se dire, ah, comment il m'a parlé ? Notre orgueil a pris un coup là. Comment il m'a parlé ? Réjouis-toi. Parce que s'il y a de l'adversité, c'est que tu es dans la vérité. S'il y a de l'adversité, l'adversité, c'est que tu es dans la vérité. Dernière chose. Il y a une vidéo qui m'a marqué quand j'étais jeune. Et vous l'avez peut-être vu, c'est une vidéo, un court-métrage où il y a un bateau. Il s'appelle Corpus Christi. Vous connaissez peut-être, non ? Corpus Christi. Et ce bateau représente l'Église. Ce bateau va sur la mer tranquillement et on voit ces hommes et ces femmes qui se préparent à un banquet. Ils sont tous bien habillés, tous super, tous nickel. Et ils sont là, ils se rassemblent sur ce bateau, ils sont prêts à faire le culte. Ils sont prêts à faire ce banquet. Waouh ! Il y a tout qui brille, tout qui est parfait, c'est super, waouh ! Et là, ils reçoivent un appel. Et cet appel dit qu'il y a un bateau qui a fait naufrage pas loin. Et il leur reste quelques moments, et c'est les seuls qui peuvent les sauver. Et il leur reste quelques moments, et après ils vont couler, ils vont mourir. Et certains de ces hommes vont se sentir repris, ils vont dire, mais on doit y aller maintenant, on doit aller les sauver. Et beaucoup vont dire, non, si on sort, si on va là-bas, on risque notre vie. Si on va sur ce bateau, peut-être que c'est des pirates, qui sait. Peut-être qu'ils vont nous tuer, qu'ils vont nous enlever la vie, que c'est faux. Et ils vont rester dans leur clan et juste un petit nombre de personnes va prendre ce bateau et partir pour les aider. Que l'Église, que nous soyons un bateau de sauvetage et non un bateau de plaisance. Que nous soyons un bateau de sauvetage et non un bateau de plaisance. Bateau de plaisance, c'est on prend la joie ensemble, on est heureux d'être ensemble et de rester ensemble. Et c'est bien, il le faut, on est bien dans la présence de Dieu. Mais l'important, et c'est notre mission, la mission de l'Église, c'est qu'elle éclaire les ténèbres autour de nous. C'est que l'Église puisse resplendir et que beaucoup viennent. Que beaucoup viennent. Alors, soyons des hommes, des femmes qui se lèvent. Qui est de l'amour, de la compassion, en fait, qui ressemble au Christ.
Merci.
Nous sommes l'image de Christ. Alors agissons comme tel. Et l'Église éclaire ce monde par son amour. Et parfois on se dit, mais les événements dans notre vie, tout ce qui s'est passé, ça m'a détruit. J'ai plus envie maintenant. J'ai plus la force. J'ai plus l'envie de combattre comme David qui ses hommes lui disent arrête. Arrête. Tu vas trop loin. Arrête, tu te bats depuis combien de temps maintenant ? J'ai plus envie de combattre. Je suis à bout de force. Je t'invite ce matin et je le prends pour moi aussi. À venir sous le refuge du Seigneur. À venir sous son aile. Celui qui va nous redonner l'amour, le zèle, l'envie de continuer. Non, nous ne sommes pas morts. Nous sommes vivants en Jésus-Christ. Et nous avons un Dieu puissant qui agit encore dans nos vies et qui va agir dans la vie de ceux qui nous entourent. Amen. Seigneur mon Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur, parce que tu es un Dieu de grâce, un Dieu de bénédiction. Et Seigneur, nous voulons encore remettre nos cœurs, Seigneur, devant toi. Nous voulons encore, Seigneur, remettre nos vies devant toi. Et tu vois, peut-être parfois, les choses de la vie qui nous envahissent et qui nous empêchent, Seigneur, d'avancer, qui nous empêchent de parler, qui nous empêchent, Seigneur mon Dieu, de marcher pour toi, Seigneur Jésus. Je te prie de nous aider à nous mettre encore sous ton aile. Je te prie de nous aider à nous mettre encore sous ton refuge, Seigneur mon Dieu. Ravive nos forces. Donne-nous le feu du premier amour encore, Seigneur mon Dieu, pour proclamer ta parole. Le feu du premier amour, Seigneur mon Dieu, pour tendre la main à l'indigent, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Aide-nous à te ressembler encore. Je te remercie pour notre Église, Seigneur mon Dieu, qui est un phare dans cette ville. Et je crois qu'il va éclairer encore plus, Seigneur mon Dieu. Je te prie d'encourager mon frère, ma sœur qui est abattu, mon frère, ma sœur qui se dit qu'il est en fin de route. Seigneur, accompagne-le, bénis-le, Seigneur mon Dieu, maintenant maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu as encore parlé, tu as encore béni et nous avons senti ta présence. Merci pour ta grâce Jésus. Raccompagne chacun Seigneur mon Dieu dans sa demeure et qu'on puisse dès ce midi Seigneur mon Dieu mettre en pratique ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen Seigneur mon Dieu.